La Voix de la Plume, un contenu proposé par AYG Bleu, autrice et créatrice d'univers, en coopération avec Radiographite. L'écriture est une passion et une expérience formidable de patience, de persévérance et de créativité à laquelle je choisis de m'intéresser infiniment. Je partage avec vous des rencontres inspirantes d'auteurs et de créateurs qui ont croisé mon chemin. Mes coups de cœur, ainsi que des conseils autour de l'écriture issus de ma vie d'autrice et de lectrice. Pour des conseils personnalisés ou des questions sur cette émission, n'hésitez pas à me contacter via Instagram @AYGBleu. Bonne écoute! Et nous voilà dans La Voix de la Plume. Ça me fait très plaisir d'être au micro de Radiographite aujourd'hui. Pour cette émission que je reprends après presque 2 ans d'absence. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'être ici. Et en plus, j'ai avec moi 2 invités dans le studio. Nous avons 2 autrices qui seront présentes au Salon du Livre de Venette en octobre prochain, qui viennent nous présenter un petit bout de leur roman. Et nous avons Anne-Claude Brumont.
Bonjour à tous.
Et Anne-Marie Caria.
Bonjour.
Voilà, je suis très contente. Voilà. J'espère que les auditeurs l'auront compris. On commence toujours La Voix de la Plume avec la même rubrique. Et je vous la rappelle si vous avez oublié. Rubrique interview. À la rencontre des auteurs et des créateurs. Et oui, donc nous avons dit 2 autrices aujourd'hui dans le studio. Il y en a même plus que ça, puisque j'ai eu la chance récemment d'aller au salon de Normania à Rouen. Et j'ai rencontré là-bas aussi plein d'auteurs, évidemment. J'en ai interviewé que 2 pour vous, que j'ai sélectionnés avec soin. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que, je sais pas, ils m'ont plu. Leurs livres m'ont plu, ou en l'occurrence, l'un d'eux était mon voisin de stand, et on a bien sympathisé, et ça m'a fait plaisir de pouvoir vous présenter un peu ce qu'ils font. Alors je vous laisse écouter cette première interview d'un auteur, que vous allez peut-être reconnaître d'ailleurs. Je suis à Normania, à Rouen, salon de l'imaginaire, et j'en profite pour interviewer les auteurs qui m'ont interpellée, qui sont par exemple proches de mon stand, mais qui aussi proposent des choses diverses et variées. Je suis avec Anaëlle Calmel-Train, qui nous propose des romans historiques. Anaëlle, bonjour.
Bonjour.
Dis-nous, sur quelle période, essentiellement, tu travailles avec tes romans historiques ?
Alors, sur tout le Moyen-Âge quand même, du 9e au 15e siècle, mais je préfère le haut Moyen-Âge, donc on va dire allez, entre le 9 et le 11e siècle, c'est ma période préférée quand même.
Et pourquoi ça ?
C'est la plus ancienne du Moyen-Âge, celle qu'on va dire la moins détaillée dans les livres d'histoire, et justement on a moins de traces historiques, donc plus de liberté pour l'interprétation de l'auteur, donc ça me plaît aussi d'être comme ça.
Qu'est-ce que tu racontes dans tes livres ? Puisque du coup, si c'est un roman historique, c'est-à-dire que tu te bases sur une période donnée, mais à côté de ça, tu crées des nouvelles histoires ?
Je me base toujours sur les faits réels. Voilà, j'étudie toutes les sources à ma disposition. Évidemment, je ne les ai pas toutes. Hein. Il y a toujours des choses après coup, je me dis « Ah mince, ça j'aurais pu le mettre à ce moment-là ». Mais c'est pas grave, au moment où j'ai réuni assez de connaissances pour bâtir une histoire, c'est ce que je fais sans travestir l'histoire. Voilà, je garde tous les faits historiques, je ne les change pas. Et là où il y a des blancs, bah c'est là où j'insère moi mon histoire. Quoi, voilà.
Donc tes personnages principaux, ce sont des personnages qui ont réellement existé ou ça peut être des personnages fictifs ?
Les deux, qui ont existé fictifs. Plus on avance dans l'histoire, plus on se rapproche de nous dans l'histoire, donc vers le 15e siècle, plus on a de traces des personnes et plus c'est documenté, donc je peux mieux piocher dans tous les personnages qui ont existé. Mais pour par exemple le 9e siècle, il y a certains personnages que j'ai inventés parce qu'on n'a pas de traces de leur vie. Donc voilà, c'est plaisant de faire les deux en fait. Voilà.
C'est un savant mélange de créativité et de recherche, en fait.
Tout à fait.
Anaëlle, j'ai vu sur ton stand qu'il y a une petite affichette avec marqué « Le sang du sacrifié » et je t'ai entendu dire à des lecteurs qui passaient que ça serait une duologie. Du coup, ce tome 1 va sortir bientôt. Est-ce que tu nous en dis un petit mot ?
Ce roman n'était pas prévu au départ. L'histoire se passe plusieurs années après un autre de mes romans. Et donc on est en pleine période des incursions vikings en Aquitaine, on va dire ça comme ça. Et 2 tomes parce que justement, c'est trop long. Hein, voilà, le premier tome fait déjà 500 pages, c'est que j'écris que la moitié du roman. Je suis obligé de le scinder en 2, sinon ce n'est pas possible de le présenter comme ça. Mais voilà, on repart sur les fleuves aquitains avec les Vikings, donc célèbres, hein, dont on a encore des traces dans l'histoire. Et c'est Asgard, c'est Hastein, tout ça. Et puis toujours sous fond d'intrigue, de bataille entre les rois qui se battent pour la couronne d'Aquitaine, puisqu'à cette époque-là, l'Aquitaine est un royaume qui s'étend de la Loire aux Pyrénées et de l'Auvergne à l'Atlantique. Donc c'est assez vaste.
Tu m'as dit que tu avais fait une campagne Ulule pour ce roman. Comment ça se passe quand on est auteur et que du coup on fait des campagnes de financement comme ça? Tu nous racontes un petit peu.
C'est toujours un moment stressant, c'est la deuxième fois que je le fais et j'avais oublié que la première avait été si stressante. La première avait mis un peu plus de temps à décoller, donc plus les jours avancent, plus on se dit mince, est-ce que ça va marcher ou pas? Parce que ces campagnes, je m'en sers pour financer tout ce qui est correction de mes romans, parfois pour la couverture un petit peu, etc. Donc c'est vraiment crucial pour moi de le réussir. Et là, pour cette fois, ça a été très vite. En 15 jours, j'avais validé les 50 précommandes. J'ai une communauté de lecteurs qui me suit bien, donc qui ont répondu présent. Et ça, c'est quelque chose de formidable.
Il y en aura une aussi pour le tome 2.
Je verrai, ça dépendra de comment ça s'est passé pour les ventes du tome 1, si c'est nécessaire ou pas, je sais pas. Je sais pas. Après, je veux pas trop solliciter non plus les lecteurs sur une campagne de précommande parce qu'on demande toujours un peu plus pour pouvoir financer tous les à côté et que leur fidélité est déjà très précieuse.
Oui, l'idée c'est de capitaliser sur la campagne du tome 1 pour sortir la duologie, quoi.
Tout à fait, ouais.
Anaëlle, tu écris donc, on a dit, des romans historiques. Il semblerait que dans la famille, ce soit quelque chose qui se transmette.
Ouais, ma mère est Mireille Calmel, donc elle a écrit une trentaine de romans historiques qui sont publiés depuis 25 ans maintenant. C'est un nom que je ne porte pas au quotidien, le nom de Calmel. Je l'ai ajouté à mon vrai nom pour mon nom d'auteur. Simplement pour que je sois mieux repérable parmi les lecteurs de ma mère quand on est sur des salons du livre. J'avais au départ plutôt envie de me démarquer à ce niveau-là, mais finalement, pourquoi pas. C'est un nom que j'assume pleinement. Ça me fait plaisir de partager tous ces moments avec ma mère. C'est une passion commune. Il n'y a jamais eu de concurrence entre nous, c'est que de l'entraide et que de l'amour, donc c'est parfait.
Elle écrit sur les mêmes périodes que toi ?
Non, elle est plutôt de 13e, 14e, 15e siècle et un peu Renaissance. Moi, je préfère les siècles d'avant, et tant mieux. Moi, la période cathare et templier, c'est pas mon point fort, c'est pas ce que je préfère dans l'histoire, donc elle, c'est ce qu'elle maîtrise plutôt bien, donc on est plutôt complémentaires.
Super, et puis du coup, ça permet aussi au lectorat qui peut être semblable d'avoir des histoires sur une période encore plus grande que celle que proposait ta mère. Donc c'est formidable. Formidable pour tout le monde finalement.
Exactement.
Merci beaucoup Anaëlle. Je te souhaite de passer un très bon salon, une très bonne sortie du sang du sacrifié dans les semaines à venir et puis beaucoup de bonheur dans l'écriture à venir.
Merci à toi.
Et voilà, c'était l'interview de Anaëlle Calmel-Train que j'ai vue donc à Normania. Anne-Claude, Anne-Marie, est-ce que vous connaissez du coup Mireille Calmel? Au moins de nom, j'imagine.
Pas du tout, Aurore, donc c'est bien de nous partager.
Vrai, alors moi, je ne lis pas du tout de livres historiques, je dois avouer, mais c'était un nom qui me disait quelque chose. Et forcément, comme il était à côté de moi, j'ai entendu aussi les lecteurs venir et dire « Ah, vous êtes le fils de Mireille ah !» Et c'était très marrant, et du coup, ça m'a permis de discuter aussi un peu avec lui, puis de découvrir son univers à lui. C'est marrant, je trouve, d'avoir comme ça dans une famille des passions qui se transmettent, comme là, le roman historique pour eux deux. Est-ce que vous aussi, vous avez ça dans vos familles, des gens qui écrivent ou qui peignent comme vous, ou qui sont proches de vous par un art ou un autre que vous pratiquez ?
J'ai un cousin. C'est plutôt l'ex-mari d'une cousine, mais quand je l'ai connu, j'avais 16 ans, et pour moi, c'est mon cousin. Edmond René Lauré de la Réunion, de l'île de la Réunion, qui écrit, qui m'a fait une très très belle préface lors de mon premier ouvrage. Oh. Je l'en remercie. Sinon, non, c'est le seul.
Dans ton entourage.
Oui.
Anne-Claude.
Ma grand-mère maternelle m'a donné le goût de la lecture et elle écrivait beaucoup. Elle a entrepris d'écrire son histoire. Elle n'a jamais été éditée, mais en tout cas, il y avait cette nécessité de coucher sa vie sur le papier. C'était pour moi, ça a été un très beau modèle.
Ouais, je comprends. Moi, c'est ma grand-mère qui nous écrivait des contes. Et on était toujours les héros de ces contes. Forcément, tous ces petits-enfants étaient les héros. Et je pense qu'elle m'a beaucoup aussi donné ce goût d'écrire. Et j'avais la chance d'avoir un papa qui m'achetait tout le temps des livres. Donc du coup, voilà. Lire, écrire, et bim, hop, ça fait une autrice.
J'ai rencontré une deuxième autrice à Normania. J'aimerais bien qu'on écoute aussi son interview. Elle s'appelle Sarah Delisle et elle a plein de choses intéressantes à nous dire, Sarah. Je suis avec Sarah Delisle, autrice hybride, comme on dit. Sarah, dis-nous, qu'est-ce que c'est une autrice hybride ?
Et ben c'est une autrice qui a à la fois des livres édités en maison d'édition et également des livres auto-édités.
Très bien. Et donc je vois que tu as plusieurs genres aussi. Donc tu n'es pas seulement hybride sur les formats, mais tu es aussi hybride dans les genres. Raconte-nous un petit peu ce que tu présentes ici au Salon de Normania.
Alors mon genre principal, ça reste l'imaginaire avec de la fantasy, de la science-fiction, du post-apo. Mais j'ai aussi fait un peu de comédie feel good ou un peu de comédie romantique. Le grand écart entre des genres très différents.
Donc en post-apo, nous avons une duologie qui s'appelle De rage et de feu. En SF, nous avons Un chant pour les étoiles. La comédie feel good, c'est Un brin de foin, un brin de toit. Ça donne un air de l'amour et dans le pré. Il y a un petit côté comme ça ou pas ?
Alors pas vraiment, mais c'est rigolo parce que j'ai écrit une comédie romantique qui n'est pas en format papier, qui est uniquement en digital et qui justement s'inspire au départ beaucoup de L'amour est dans le pré. Donc c'est assez marrant que tu aies fait ce lien-là, même si c'est pas pour ce bouquin.
Donc il y a quand même un petit côté où tu aimes beaucoup la campagne.
Oui, j'aime beaucoup la forêt, les chevaux, les écuries, donc ouais. Effectivement, c'est quand j'écris du contemporain, on va dire, c'est souvent à la campagne.
Et ton dernier roman s'intitule Fleurs de cendre. La couverture est magnifique, je dois le dire. T'es édité chez Gulfstream Edition. Parle-nous-en un petit peu, puisque du coup, c'est ce que tu as vendu le plus, tu m'as dit, pendant ce salon. Fantasy plutôt médiévale.
C'est ma dernière sortie. Donc la couverture, donc, qui est effectivement magnifique, comme tu l'as dit, c'est l'œuvre de Sally Hart. Donc je remercie pour... ce magnifique travail, c'est l'histoire d'Angre qui a été défigurée par le feu et qui suite à ça est rejetée par son père et par son fiancé et qui rejoint le château d'une mystérieuse marquise perdue aux confins du royaume et qui intègre un groupe de sorcières guerrières auprès duquel elle va apprendre à se battre tout en maniant la magie. Donc c'est très orienté sororité, magie et complot.
Oui, j'ai vu sur ta quatrième de couverture qu'il y a quand même des thèmes assez forts, puisqu'on parle d'une quête de liberté au-delà des apparences et dans un monde plutôt patriarcal, du coup, la sororité prend tout son sens.
Le thème de l'apparence et le féminisme me tiennent beaucoup à cœur. Donc c'est vraiment autour de ces sujets-là que j'ai orienté la réflexion. La solidarité féminine qui est importante dans des contextes un peu difficiles. La tyrannie de l'apparence qui peut être difficile à vivre, particulièrement pour les femmes. Mais après, je précise quand même que j'ai aussi abordé le thème de la société patriarcale aussi du point de vue des hommes, parce qu'ils sont aussi impactés dans une société patriarcale. C'est difficile pour les femmes, mais les hommes subissent aussi certaines injonctions dans une société patriarcale. Donc j'ai aussi essayé de mettre en avant ces aspects-là.
Est-ce que le but des sorcières guerrières dans ton roman, c'est justement de défaire cette société patriarcale ?
Alors non, c'est pas leur but premier. Leur but premier, c'est de lutter contre des démons qui surgissent des entrailles de la Terre. Après, je vais pas raconter la fin, mais il y a quand même des choses qui évoluent au cours de l'histoire. Voilà. En fait, c'est plus, elles vivent un peu en marge de la société, elles se construisent une société un peu parallèle pour défendre le royaume, pour défendre leur île. Et je ne peux pas en dire plus pour ne pas révéler la fin.
Très bien, très bien. Il faudra donc lire Fleurs de cendre pour tout savoir. En tout cas, tu abordes des thèmes forts, je pense qu'ils sont très actuels aussi. Et c'est toujours une bonne idée, je trouve, chez les auteurs d'aborder des thèmes d'aujourd'hui, de les remettre dans un autre contexte pour pouvoir aussi faire réfléchir les lecteurs. D'autant que la majorité de tes lecteurs, ou en tout cas ton public cible, tu nous rappelles, c'est plutôt du
young adult à partir de 13-15 ans. Même si j'ai beaucoup parlé des thèmes, je cherche quand même dans mes histoires à faire avant tout des histoires avec du suspense, de l'aventure. Voilà, quelque chose qui soit agréable à lire. C'est pas des essais politiques, même si les thèmes sont là.
C'est important de le signifier. Merci beaucoup, Sarah. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite.
Et voilà, c'était Sarah Delisle avec notamment sa dernière parution, Fleurs de cendre, que j'ai commencé à lire d'ailleurs et qui est très bien écrit, en plus d'être beau. Donc ça promet, je n'en suis qu'au début, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ce qu'on en dit déjà dans l'interview. En tout cas, si vous cherchez un livre de fantasy en one-shot, parce que ça court pas non plus les rues, les one-shot en fantasy, ben je vous le conseille vivement.
Sarah, c'est une autrice hybride et multigenre. Donc du coup, hybride, je rappelle, c'est si on est édité en maison d'édition et aussi en auto. Et multigenre, c'est quand on fait plein de genres différents. Donc c'est une question que je vais aussi pouvoir poser à mes invités du jour. Et on va commencer par Anne-Claude Brumont.
Non, Aurore, je ne suis pas hybride. Voilà, je suis publiée en maison d'édition. Les choses se sont passées, enfin, se sont bien passées pour moi. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer mon éditeur,
qui est
The Mental House, une maison d'édition parisienne. Je m'étais posé la question de l'auto-édition et j'ai laissé les choses se faire. Voilà, donc l'aventure s'est présentée comme ça. Maintenant, l'avantage aussi d'être en maison d'édition, c'est de s'ouvrir les portes quand même plus facilement des librairies. Voilà, donc c'est pas un choix au départ, mais maintenant je suis très contente de cette aventure. Ensuite, multigenre, est-ce qu'on peut parler de multigenre ? J'écris de la littérature blanche, qu'on appelle de la littérature blanche. J'écris également beaucoup de poésie. Je suis publiée en revue et j'ai l'espoir de faire publier bientôt mon premier recueil de poésie. Ouh. Donc je suis bigenre, peut-être. Voilà, j'ai écrit également des nouvelles dans la presse au moment du confinement, mais je n'en ai pas fait forcément de recueil.
Publication.
Oui, exactement.
Donc plutôt littérature blanche, sinon, ça veut dire quoi, des romans contemporains ?
Ça veut dire des romans contemporains, axés sur des histoires de vie et sur des thèmes qui sont dans l'air du temps, hein, des thèmes sociétaux.
Mais ça reste de la fiction.
Ça reste...
Alors
on va dire qu'il y a des bouts de moi dans chacun des romans.
C'est normal.
Les trois romans ont l'appellation roman. Maintenant, j'ai l'honnêteté de dire que mon premier roman relève davantage de l'autofiction. C'est un choix que je n'ai pas assumé au démarrage, au départ, parce que c'était tout simplement pas évident pour moi. Et puis, à mesure de présenter cet ouvrage, à mesure d'en discuter, à mesure de rencontrer aussi de jeunes lecteurs dans des médiathèques ou même dans des établissements scolaires, j'ai compris la nécessité de lever un petit peu le masque et d'assumer cette histoire que je vous présenterai tout à l'heure.
Mais oui, présente-la nous en fait.
Maintenant ?
Ben allez.
Bon,
comment s'appelle ce roman du coup ?
Ce roman s'appelle Une dernière fois encore. C'était pas forcément mon premier roman, mais en tout cas, les autres sont dans des tiroirs et je n'avais jamais fait la démarche d'envoyer à des maisons d'édition, tout simplement parce que j'étais, et ça, cela me suffit amplement, j'étais dans le plaisir de l'écriture depuis toujours, depuis toute petite.
Alors ça c'est marrant parce que tu nous dis c'est une autofiction que je n'ai pas assumée et que je fais passer pour un roman, mais c'est quand même le premier roman que tu as décidé d'aller emmener vers la publication.
Ouais, parce qu'il touche à des thèmes qui sont importants pour moi et que j'avais véritablement envie de défendre. Mon éditrice a pris peur quand elle a décidé de le faire publier. Elle m'a dit vous êtes un personnage public entre guillemets, peut-être que vous n'allez pas présenter cette histoire comme la vôtre, donc je vous propose un pseudo. J'ai dit non, on va le publier sous mon nom, puis ce sera un roman, et quand on me demandera si c'est mon histoire, je dirai oui, il y a des bouts de moi dans cette histoire, donc c'était pas un mensonge.
Ce qui n'est pas illogique de toute façon, enfin,
voilà,
même quand
exactement.
On écrit de la fantaisie, il y a toujours un bout de nous dans l'histoire.
Exactement, sauf que bon, effectivement, cette histoire qui raconte l'histoire d'une femme qui aime une femme, qui brûle sa vie, c'est une femme qui vit trop. Et qui a ce penchant pour l'alcool que les autres lui reprochent, mais finalement qui pour elle ne pose aucun problème, jusqu'au moment où elle va faire une rencontre décisive. Donc c'est l'histoire d'une femme, c'est le combat d'une femme pour apprendre à s'aimer. C'est avant tout une histoire d'amour propre et d'amour tout court avec un A majuscule. Voilà. Donc thème de l'homophobie, thème de l'addiction, et puis une autre thématique que je ne peux dévoiler. Puisque ce serait spoiler l'histoire de ce personnage qui me ressemble énormément.
Très bien, donc il faut lire une dernière fois encore pour tout savoir.
Voilà, exactement.
Tu nous as aussi parlé d'un recueil de poésie qui est en cours. Est-ce que tu penses l'avoir pour le Salon du Livre de Venette en octobre ?
Alors, ça va dépendre de la maison d'édition qui...
C'est Mental House aussi ?
Non, c'est une autre maison d'édition qui est intéressée. Donc là, ça ne va pas dépendre de moi. Ce sera peut-être un petit peu court au Salon de Venette, mais voilà, j'aimerais bien que ça se fasse rapidement en tout cas.
Ok, donc on espère quand même courant 2025, même si c'est plutôt fin de l'année.
Ah oui, moi aussi, j'espère énormément.
Merci beaucoup, Anne-Claude. Ça fait combien de temps que tu écris ?
Alors, très exactement depuis l'âge de 9 ans. Ah. C'est-à-dire au moment où, le nez dans une nouvelle d'Edgar Allan Poe, j'ai été absolument sidérée de voir ce que l'on pouvait faire avec les mots. J'ai compris à quel point ça donnait un pouvoir pour accéder à l'invisible, aux émotions. Donc c'était l'histoire d'un petit garçon qui arpentait, qui passait dans un lotissement, qui a entendu un cri inhumain. Il a tourné la tête et il a vu un jardinier en train d'étêter une rose. Et c'était la rose, en fait, qui criait. Et je suis rentrée chez moi, je me souviens vraiment de cette scène. J'ai pris un petit cahier de brouillon, un crayon de bois, et j'ai commencé à écrire une nouvelle de science-fiction. Une nouvelle extraordinaire, quoi, en fait. Et ça a été vraiment le point de départ. Et l'urgence, la nécessité d'écrire ne m'a plus quittée. C'est-à-dire que dès lors qu'il y avait quelque chose de trop impactant, de trop émotionnant, je ne sais pas si ce mot existe, mais peu importe, il fallait que je le digère par les mots. Et je pense à cette phrase d'Annie Ernaux qui dit si je ne les ai pas écrits... les histoires ne sont pas arrivées à terme, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Donc il y a besoin de passer par ce filtre de l'écriture pour digérer les choses. Et c'est vraiment ce que je ressens. Donc j'écris depuis toujours, en tout cas, ça ne m'a jamais quittée.
D'où le fait qu'il y ait tant de manuscrits dans tes tiroirs.
Voilà, ils y resteront. Ce n'est pas les histoires, c'est les choses ne sont pas allées jusqu'au bout. Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'au bout. Et c'est vraiment quelque chose que je...
Comme pour pouvoir tourner la page.
Finalement. Exactement, tout à fait.
C'est une belle métaphore d'ailleurs, tourner la page. Une fois qu'on l'a écrit, on tourne la page, on passe à autre chose.
On dépose les valises, exactement.
Mais moi aussi, j'ai tendance à dire ça aux jeunes que je rencontre quand ils me demandent depuis quand vous écrivez. Bah, depuis que j'ai l'âge d'écrire et de pouvoir inventer des histoires, donc sensiblement sur les mêmes... années que toi, Anne-Claude. Moi, c'était un remake de Titanic que j'avais écrit en premier, en au moins 4 pages à 4. C'était waouh, quoi.
Voilà, non, moi, j'ai pas dit c'était waouh. J'ai pensé que c'était très dégueulasse ce que j'avais écrit, mais je l'avais fait et c'était très bien. D'où le. Quand tu dis effectivement, on encourage les gens à écrire beaucoup, on se complexe de se dire, oui, je suis pas écrivain, mais tout le monde peut écrire, ne serait-ce que d'être dans le plaisir, ça suffit. On vise ça en priorité, voilà, le plaisir d'écrire.
Anne-Marie, le plaisir d'écrire, c'est quelque chose qui te parle aussi, j'imagine ?
Ah oui, 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 oui. J'écris depuis l'école primaire, on lisait mes rédactions dans les classes, et je dessinais pendant les cours de maths. Alors je suis devenue peintre, autodidacte, sans avoir pris de leçons.
Grâce à tes profs de maths.
Voilà.
Super, non mais du coup on en est... C'est marrant, du coup on en est toutes les trois... On a commencé au même endroit, finalement,
oui.
Aux mêmes âges.
Et j'aime beaucoup une autrice, enfin je n'aime pas le mot autrice, mais enfin tout le monde l'emploie.
Tu sais que c'est un mot qui date du Moyen-Âge et qui a été effacé par l'Académie française au moment où ils ont épuré toutes les professions féminines. Et moi je ne savais pas ça, et quand j'ai appris ça, je me suis dit ok, j'emploie ce mot, parce que je n'aimais pas trop non plus.
Moi aussi je l'emploie.
Et en fait je me suis dit non, il faut réhabiliter ce mot qui existait déjà avant. Pardon,
alors une autrice qui est décédée et que j'aime beaucoup, je pense avoir un petit peu le même style, bien sûr, en toute modestie, hein. C'est Nicole de Buron, avec beaucoup de dérision et d'autodérision, et un style qui n'est pas intellectuel, qui peut être lu par tout le monde. Mes livres, ils peuvent être lus par... Ce sont des mots simples, qui peuvent être lus... par un lectorat très large.
Et le livre que tu nous as apporté aujourd'hui s'appelle « Une garde-robe impériale ou mes vestes sur les sites de rencontres ».
Voilà, alors le titre c'est « Une garde-robe impériale » et le sous-titre, j'explique pourquoi, parce qu'il ne s'agit pas de robe, « Mes vestes sur les sites de rencontres », c'est-à-dire qu'à force de recevoir des vestes, on se constitue une garde-robe impériale.
Ah, de se prendre des vestes, voilà. C'est ça que tu... Oh là là, voilà. My God.
De recevoir et d'en donner aussi.
Ah hein, oui, ben
souvent, pas que reçu, c'est un petit peu mon vécu.
Et une sorte d'autofiction pour toi aussi.
Pardon ?
Une sorte d'autofiction aussi pour toi.
Non, c'est pas de la fiction.
Oui, ça parle de toi, c'est ça que je veux dire.
Enfin, ça parle pas de...
Oui, ça s'inspire de tes expériences.
Je parle à la première... J'ai écrit beaucoup de livres depuis, alors... je parle de moi, je parle à la première personne, les déconvenues classiques que tout le monde connaît d'ailleurs. Et ce livre m'a porté bonheur, puisqu'il a été publié en avril 2023. Et 3 mois après, j'ai fait une très belle rencontre.
Oh,
voilà.
Ça valait le coup de tout balancer sur les sites de rencontres.
Oui. Enfin, la personne n'avait pas lu le livre. Hein.
C'est comme si toi, ça t'avait déchargé de toutes ces mauvaises expériences.
Voilà,
et puis, ça t'a ouvert
voilà,
à autre chose.
C'était un exutoire. Un exutoire, je parle.
C'est une satire, du coup, un peu une satire de ce qu'on peut trouver sur les sites de rencontres.
Voilà, ceux qui prétendent être libres et qui ne le sont pas, ceux qui n'aiment pas les artistes, ceux qui n'aiment pas les animaux, ah non, je veux personne avec un animal.
Ceux qui n'aiment pas les enfants.
Vous habitez trop loin.
Oui, c'est vrai.
Vous habitez trop loin. Enfin, tous les prétextes possibles. Je préfère les femmes minces.
Sympa.
Alors que dans la vraie, entre guillemets, vraie vie, beaucoup de messieurs préfèrent, n'aiment pas les
femmes trop minces.
Ouais. Voilà, enfin, il faut de tout pour faire un monde. Donc j'ai regroupé toutes ces... Et je parle aussi des moyens que les couples avaient autrefois de se rencontrer, les petites annonces, les balles.
Eh oui, voilà. Les balles.
On te sent nostalgique, Aurore.
Non, c'est parce qu'on a parlé de bal hier avec un ami et ça m'a fait rire parce que c'est mon père normalement qui me parlait de ça quand il allait au bal. Et du coup, l'entendre dans la bouche d'Anne-Marie, ça me fait toujours rire, aller au bal. Moi, je suis jamais allée au bal. Voilà, j'ai fait d'autres trucs, mais je suis pas allée au bal. Dommage, j'avais vraiment l'impression de louper un truc, en fait, de pas être allée au bal.
Alors, il y a encore des bals aujourd'hui, rien n'est perdu.
C'est plutôt dans le sud.
Ouais, c'est là où il fait beau.
Dans le sud.
On a notre bal des pompiers.
En salle.
Oui, au 14 juillet aussi, on peut trouver des...
Donc c'est assez... J'essaie de mettre beaucoup d'humour, d'autodérision. Et une précision, j'illustre toutes mes couvertures.
Oui, parce que tu nous disais que tu étais peintre,
voilà,
du coup.
Avec mes toiles ou, le plus souvent, avec mes aquarelles.
D'accord. Donc là, sur ce livre-là, c'est aussi l'illustration, c'est toi qui l'as fait.
Ah, tout à fait.
Sur tous tes livres ?
Tous, sans exception.
Super. Ça, c'est chouette, parce que du coup, ça fait une... On voit un double côté de toi, un petit peu. On peut te lire et en même temps, on voit ta création. C'est très particulier, toujours les styles de dessin de chacun.
Oui.
Et c'est chouette de connaître aussi cette autre facette directement avec la couverture. Et... Donc tu écris depuis longtemps, tu as dit, comme nous, depuis que tu es à l'école primaire, tu as dit avoir écrit plusieurs livres déjà depuis celui-ci de 2023.
Oui.
Tu nous fais un petit...
Les deux premiers sont des récits autobiographiques de mon enfance, c'est-à-dire j'avais quelques souvenirs d'enfance, mais enfouis dans ma mémoire. Hein. Mm-hmm. Et un jour, quelqu'un m'a dit, tu devrais... Écrire mais oui, mais je ne peux pas écrire un livre de 2 pages parce que. Et l'idée a fait son chemin, et à force d'essayer de me souvenir, j'en ai retrouvé un autre, puis un autre, puis un autre. Les bêtises qu'on faisait à l'heure de la sieste avec mes cousines, ou enfin, plein de choses. Et à force, j'ai pu écrire un livre. Et même la suite un mois après.
Toi qui pensais ne même pas faire 2 pages, tu as écrit
voilà
2 romans.
Voilà la suite un mois après, parce que je me suis dépêchée, parce que moi-même en tant que lectrice, je n'aime pas attendre le tome 2 par exemple, quand c'est un livre. Une fois que j'ai lu le tome 1, j'ai peur de l'oublier si je ne le lis pas. Pas tout de suite la suite. Et je me suis mise à la place des personnes qui l'ont lu. Alors, je me suis dépêchée d'écrire la suite. Alors, je les ai supprimées parce qu'il y a des erreurs. Les premiers livres, il y a toujours des erreurs. Hein. On n'est pas encore très rodé, il y a des choses qu'on regrette.
Tu ne faisais pas ça de façon professionnelle, on va dire.
Voilà, ça pour le des choses que aussi. Je regrette, des choses erronées. Alors, j'ai demandé leur retrait, mais je vais les réécrire.
D'accord, tu vas retravailler dessus. Et puis...
Oui, ça, j'ai bien l'intention de le faire. J'ai également une dizaine de recueils de poèmes, d'une centaine de pages chacun, alors que je détestais la poésie. Tout d'un coup, ça m'a pris. Et bon, il y en a une qui disait, j'arrête. Je sais que la poésie, on aime ou on déteste. Il n'y a pas de demi-mesure. J'ai quelques nouvelles. Un roman de science-fiction, c'est pareil, la science-fiction, je ne connaissais pas du tout, avec un peu d'érotisme.
Allez,
ouais.
On ne se refuse rien.
Voilà.
Et ça t'a pris comme ça, d'écrire de l'ASF d'un coup ?
Oui.
Ok.
Ça m'a pris comme ça. Et puis donc, cette satire, une sorte de satire sur les sites de rencontres. Et là, je viens de terminer un roman qui s'intitule « La salle d'attente », mais qui est encore soumis en page par mon éditeur.
Tu penses que tu l'auras pour le salon de Venette,
celui-ci ? Je pense quand même. Il est assez rapide, hein, normalement. Là, les équipes sont surchargées parce que y a eu des départs. Mais je compte bien le recevoir.
Il est entre les mains de l'éditeur et puis ça va arriver.
On va dire la mise en page dans le courant de ce mois de mars.
Très bien. Donc, une sortie, là, incessamment, sous peu.
Ben, j'espère.
La salle d'attente.
J'espère.
Super.
Sinon, je lui tire les oreilles.
Voilà. Que l'éditeur se tienne à carreau, c'est dit. Merci beaucoup, Anne-Marie. Du coup, c'est fou d'écrire dans des genres comme ça. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné envie ? Du coup, tu as commencé par de l'autobiographie. Finalement, tu as écrit aussi des romans, littérature blanche, science-fiction. Et la prochaine fois, ce sera quoi ?
Bon, il y a la salle d'attente. Après, je verrai. Après la salle d'attente, je verrai. Ben déjà, je vais refaire mes deux premiers.
Oui, du coup, tu vas réécrire.
Voilà. Qu'est-ce qui m'a donné ? Alors, même dans mes romans, il y a toujours une part, il y a toujours une, même petite, une part d'autobiographie. Il y a toujours quelque chose de moi.
C'est normal. Enfin, ça me semble tout à fait normal.
J'adore les chats. Il y a toujours les chats. Il y a toujours la Tunisie, parce que je suis née en Tunisie, alors d'ascendance sarde. Donc, il y a toujours la Tunisie, les chats, l'amour, la solitude que j'ai connue. Enfin, il y a toujours quelque chose qui me ressemble, même si c'est très fictif.
Bah, oui,
par exemple...
Le domaine de l'imaginaire, ça s'inspire malgré tout de notre expérience.
Voilà.
Ça ne me paraît pas illogique.
Voilà. Par exemple, l'héroïne, le personnage principal du roman qui est en couveuse, on va dire.
La salle d'attente.
Non, il n'est pas en couveuse, il est terminé, mais j'attends sa mise en page. Par exemple, ce n'est pas tout à fait autobiographique. Autobiographique parce que l'héroïne Mathilde ne peut pas avoir d'enfants. Et moi, j'ai eu trois enfants et j'ai sept petits-enfants. Donc, il y a quand même quelques différences.
Oui, bien sûr. Ça reste de la fiction, même si on s'inspire de soi.
Voilà.
Anne-Claude, du coup, ton premier roman que tu nous as présenté une dernière fois encore, c'est une autofiction, mais ce que tu as fait derrière, c'était de la fiction pure.
Oui, alors...
Mais toujours inspiré un peu.
Oui, pour présenter l'ensemble, parce qu'il y a un fil quand même, finalement. Le premier roman, quand il est arrivé dans cette maison d'édition, ce Manto Laos, Anne Calif, qui était la directrice à l'époque, s'est appuyée sur cet ouvrage pour fonder la collection Horti et réunir un collectif de voix féminines, pour la plupart, pour écrire sur des questions qui sont des questions, aborder des sujets plutôt à la marge. Donc je suis publiée dans une collection qui s'appelle la collection Ortie. Alors pourquoi l'Ortie ? Ben, parce que on pique à travers nos récits, qui sont quand même des récits assez féministes, assez engagés. Et puis on guérit également, puisque l'ortie, c'est très bon en soupe. Donc mes trois romans sont dans cette collection. Donc le deuxième, Les papillons ne meurent pas en hiver, aborde au travers l'histoire d'une dyade fusionnelle, le concept de monoparentalité, hein, comment on grandit quand on est un petit garçon élevé par une maman seule, sans les repères paternels de nos sociétés que certains fustigent. L'absence de repères paternels peut être considéré comme un biais pour éducationnel, hein, ce que je contredis complètement. Moi, j'avais envie de montrer à travers ce roman que finalement, ce qui est important pour élever un enfant, c'est l'amour. Voilà. Et le troisième roman, Fleur de peau,
qui a une très très belle couverture.
Fleur de... j'ai un petit peu comme Anne-Marie, j'avais proposé une illustration, parce que je peins également. Et puis finalement, on a un infographiste tellement talentueux qui s'appelle Taoni, dans cette maison d'édition, que il a vraiment compris ce que je voulais. Il l'a fait vraiment bien. Donc on a pris sa proposition. Fleur de peau, c'est une manière de réfléchir... Alors, j'écris pas des essais, hein, faut que j'arrête de dire, c'est une manière de réfléchir. Mais quand même, j'avais envie de montrer qu'un tatouage, c'était pas juste une affaire de bijoux sur une peau, c'est bien plus que ça, c'est une renarcissisation. Et donc, je mets en scène un personnage qui s'appelle Rosa, qui est tatoueuse. Et sur son corps, elle a 12 tatouages, Rosa. Et ces 12 tatouages racontent sa vie. Et à travers sa vie, on va aborder des thèmes qui me sont chers, la dépendance versus la liberté. L'amour, le deuil, voilà, tous ces thèmes qui traversent ma petite bibliographie, voilà, parce qu'à côté d'Anne-Marie, moi, je n'ai pas écrit beaucoup, mais il y a encore du temps devant, j'ai encore un petit peu de temps devant.
Ce n'est pas le nombre qui compte, hein, ce pas...
C'est l'intention et le plaisir, toujours.
La qualité...
Est-ce que toi-même, tu as des tatouages ?
Oui, sur la quantité.
Moi-même, j'ai des tatouages.
Je te posais la question. Je ne les vois pas, là, comme ça.
Non, ils sont cachés un petit peu. Mais en fait, c'est marrant que tu poses cette question, puisque le déclencheur... moi, il y a toujours un déclencheur dans la genèse d'un roman. Et le déclencheur de Fleur de peau, c'est tout simplement un cadeau que je me suis fait pour mes 50 ans. Alors, mes garçons m'ont regardé en disant « Mais maman, te faire tatouer à 50 ans, c'est n'importe quoi. » Et j'ai rencontré une tatoueuse à Compiègne, d'ailleurs, qui est formidable. Et c'est en discutant avec elle que j'ai eu... Alors, elle n'est pas le personnage, mais que j'ai eu l'idée de ce personnage. Et c'est surtout en me faisant tatouer que j'ai compris... que cette douleur, elle portait quelque chose.
Dans la chair.
Voilà, une douleur dans la chair. Et puis, il y a surtout tout un courant de thérapeutes qui viennent jusqu'à affirmer que si les adolescents se tournent autant vers le tatouage, c'est parce qu'on y trouve là... les bienfaits, et j'ai dit exprès bienfaits, hein, les bienfaits de la construction identitaire. Autant que le principe de scarification qui est assez courant à l'adolescence, mais en tout cas le tatouage est pour l'adolescent et pour l'adulte aussi une entreprise de construction identitaire. Donc tout ça je l'ai perçu à travers ma propre expérience et je ne pouvais pas passer à côté de ce roman que j'ai eu envie d'écrire. Voilà.
Fleur de peau. Merci beaucoup.
Merci.
Est-ce que j'ai oublié de vous demander quelque chose ? Quelque chose que vous auriez envie de nous dire avant qu'on passe à la rubrique suivante, par exemple ?
Moi, j'aime bien dire qu'un livre, c'est une rencontre, que nous, on travaille beaucoup. Il y a toute une discipline, au-delà du plaisir de l'écriture, il y a vraiment toute une discipline. Il y a aussi du surgissement qui arrive. Oh, donc, oui. On est un petit peu, des fois, pris dans tout ça. Et puis après... c'est ça qui est formidable quand on devient autrice, c'est cette rencontre que l'on fait avec le lecteur. Donc le livre qui faisait écho en nous ne nous appartient plus. Il vient rencontrer le lecteur et vient faire un autre écho chez le lecteur. Donc que le lecteur aime ou non notre ouvrage, tout ça fait partie du jeu. Et ce qui importe, c'est justement que nos livres continuent de faire ces braises incandescentes voilà, dans,
c'est vrai
chez les lecteurs.
Écrire un livre, j'allais dire, c'est un travail. C'est un mot horrible pour moi, une tâche. Non, c'est une occupation constante, souvent jour et nuit. Il m'est arrivé, en conduisant ma voiture, de piler sec et de chercher à me garer dard-dard afin de ne pas oublier, de ne pas perdre l'idée que je venais d'avoir, l'inspiration. Parce qu'après, une fois à la maison, Mais c'était quoi ? Qu'est-ce que c'est que j'ai voulu ajouter ?
Oui, parce que le cerveau travaille sans cesse quand on est en train d'écrire quelque chose.
Voilà, où on me parle, quelqu'un me parle, un proche me parle, je suis ailleurs. Je pense à mon ouvrage. Tant qu'il n'est pas publié, même s'il est déjà chez l'éditeur, j'envoie un mail pour rajouter ci, rajouter ça. Et c'est sans fin. Si on ne se fait pas violence, c'est comme un tableau. Un tableau n'est jamais terminé. On veut toujours ajouter un détail. Et à un moment, il faut se dire stop.
Je suis complètement d'accord avec cette métaphore du tableau. Est-ce qu'Aurore, tu aurais le temps dans ton émission d'une petite lecture d'un extrait de nos ouvrages ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer ?
Pourquoi pas ?
Anne-Marie.
Pourquoi pas ? On est là.
Alors, moi, je peux vous offrir un court passage d'un moment important du roman où l'héroïne Marie, qui est l'anagramme du verbe aimer, prend cette décision ferme et définitive d'arrêter de boire. Donc, elle va tout simplement faire quelque chose d'extrêmement hautement symbolique. Quand on a un trouble de l'usage de l'alcool, elle va rentrer et elle va vider toutes les bouteilles qui sont chez elle.
Une scène qu'on voit parfois dans les films aussi.
Exactement. À peine rentrée, je me précipite. Il faut voir comme je mets du cœur à l'ouvrage. 10, 15 allers-retours entre la cave et la table du salon. Peut-être plus. Elles sont nombreuses. Les bougresses, suées. Je peux aider, propose Gabriel. Non, merci, c'est mon affaire. Les unes après les autres, je les attrape par le cou, les pose sur la table du salon. Une fois terminé, je m'assois, les regarde réunis. Une fortune. Les pressions blondes, les rouges poussiéreuses, la moelleuse glacée, les pétillantes festives, les exotiques frappées. Voilà qu'elles me font les yeux doux, surtout les blondes. Ne plus attendre. Des larmes dans les yeux, je les remercie pour tout le bien qu'elles m'ont fait. Pour ne pas reculer, je pense au mal aussi, surtout au mal, puis les vides, une par une, durant une heure, dans la cuvette où je les vomissais. Pour enlever la couleur, l'odeur et les résidus, je tire la chasse une fois, deux fois, trois fois, puis déodorise et frotte. Tout en frottant, je me demande ce qu'on servira à boire ce soir, et cette pensée-là ouvre un vide abyssal en moi.
Ah oui, quand on boit de l'alcool et qu'on est obligé de boire de l'eau, c'est pas pareil. Merci pour cet extrait fort.
Eh bien, je vais vous donner je vais abréger quand même, parce que je vais essayer d'abréger. Chapitre 4, ce que l'on m'a rétorqué lors d'échanges. Ah, vous êtes artiste ? Oui, comme je l'ai précisé. Mais dites-moi, les artistes ont une drôle de vie. Je ne sais ce que vous appelez drôle de vie. Sous-entendant devoir partager une existence dissolue alors qu'il n'y a pas plus normal et simple que la mienne. J'ai deux bras, deux jambes, je mange, je dors, je ris et je pleure comme tout le monde. Une artiste est aussi une femme, en majuscule. Elle l'est même davantage. Juste elle colorie la vie. Vous la préférez fade et tristounette, la vie ? Et alors, je vais plus loin, je ne vais pas tout vous infliger tout le chapitre. Et vous vivez de votre art ? Mais pourquoi, trop gentille et douce ? Je ne rétorque pas. Cela ne vous regarde pas. Je ne compte pas me faire entretenir par vous, que je sache, ni vice-versa. Mais pour votre gouverne, non, je ne vis pas de mon art. Aucun artiste ne vit de son art, sauf rares exceptions, pléonasme volontaire. C'est ma passion, comme la vôtre pourrait être d'aller à la pêche.
Et bim.
Bam.
Non mais c'est... Ça me fait rire parce que ça me fait penser, moi aussi j'étais sur des sites de rencontres à certains moments de ma vie, et je sous-tends, j'avais une explication auprès de mes amis, c'est-à-dire, puisque, en l'occurrence c'était Tinder hein, à l'époque, on ne pouvait mettre que quelques photos, et c'était donc ça que les gens voyaient, et en fait je trouvais que c'était très important le choix que les gens avaient sur leurs photos. Qu'est-ce que tu décides de mettre en avant ou pas ? Et il y en a, clairement, où tu voyais, ils s'en foutaient complètement de ce qu'ils avaient mis. Et je me suis dit, mais en fait, si c'est ça, ce que tu montres de toi, que tu t'en fous de ce que tu mets sur les réseaux, alors que t'es là pour rencontrer quelqu'un, je trouve ça dommage, en fait. Et puis, il y en a d'autres, on voyait qu'ils avaient fait un effort de choix, mais du coup, analyser les choix que faisaient les autres, ça m'amusait beaucoup. Et... effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ceux qui ont des animaux, ceux qui sont déjà à moitié à poil sur leurs photos, ceux qui ont une bouteille à la main. Mais il y avait, enfin, je trouvais que c'était encore plus intéressant de se faire un avis sur les profils des gens que d'aller à la rencontre vraiment des gens, en fait. C'est, voilà, oui. C'est horrible, en fait. C'était vraiment horrible.
Puis les faux profils, il y a aussi. Oui. Ils sont foison.
Exact.
Enfin, ils sont. Je parle au présent, je n'y vais plus.
Mais il doit y en avoir toujours pareil.
Ouais, ouais.
Moi, je disais, on pourrait faire une émission là, vraiment entière. Moi, j'ai écrit aussi dans Les papillons ne meurent pas en hiver, mon deuxième roman, j'aborde cette question, vraiment. Et donc, j'y suis allée pour de faux. C'est-à-dire que moi, je suis mariée et donc...
Très pour la recherche, on dit voilà, pour la recherche.
Très ouvertement, pour la recherche du roman, pour la recherche. Je suis allée m'inscrire et ça a été édifiant, effectivement. Mmh.
Eh bien, merci beaucoup, Anne-Claude, d'avoir proposé une lecture. Ça nous a permis de découvrir un petit peu mieux chacune vos univers. Merci, Anne-Marie, pour... c'était joyeux.
Avec plaisir.
Et si ça vous va, on passe à la rubrique suivante. Qui est là ?
Rubrique Vie d'autrice. Des conseils pour vous affirmer dans l'écriture et des anecdotes.
Et nous revoici. Oui, vie d'autrice, parce que ben, comme vous le savez, moi aussi je suis écrivaine. Et il y a deux choses que j'ai envie de parler avec vous et de dire aux auditeurs s'ils ne le savent pas déjà. C'est que depuis récemment, j'ai un partenariat avec L'Entre-deux Mondes, qui est une boutique de... jeux de société en centre-ville de Compiègne. Pas que, ils vendent aussi des mangas, des livres de littérature de l'imaginaire, mais sont quand même très spécialisés sur les jeux. Tous les premiers samedis du mois, depuis début mars, eh bien, on a un atelier d'écriture qui se passe à l'Entre-deux Mondes. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si ça vous dit. Je sais qu'ils ont une communauté sur Discord, mais vous pouvez aussi me contacter directement ou les contacter à la boutique si ça vous intéresse. On aborde tout un tas de sujets différents. Ce que j'ai pu discuter, en tout cas jusque-là, avec les premiers participants, c'est que en vrai, il y a une vraie communauté de gens qui écrivent autour du Compiénois, que ce soit publié ou pas publié encore, ou juste qui ont envie d'écrire, même si c'est pas pour être publié jamais. Enfin, il y en a aussi qui écrivent juste pour le plaisir, comme tu disais, Anne-Claude. Et en fait, de leur retour, ce qui est remonté le plus, c'est un besoin de structure et aussi de motivation. Donc le fait de se retrouver ensemble les premiers samedis du mois, ça permet de ne pas perdre la motivation à écrire, parce que c'est quand même une activité assez solitaire. Et en même temps, de structure sur ben, voilà, comment on écrit un bon dialogue, comment on fait du suspense, comment on structure un récit. Il y a des mille et une questions auxquelles des tas de podcasts ou de vidéos YouTube peuvent sans doute répondre. Et moi, ce que j'ai dit aux gens, en fait, l'intérêt d'être là les uns avec les autres, c'est vraiment de pouvoir aussi créer un lien, échanger. Et puis, moi, j'en ai fait aussi des podcasts et des masterclass et des trucs et des machins pour apprendre à écrire. Parce que quand j'ai écrit mon premier roman, comme tu disais, Anne-Marie, on n'est pas encore sur une qualité professionnelle. Voilà, donc on apprend en faisant. Et j'ai appris beaucoup. J'aime beaucoup apprendre aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, me nourrir de tout un tas de trucs. Donc voilà, je suis contente de pouvoir partager ça avec, avec les personnes qui viennent le premier samedi du mois à l'Entre-deux-Mondes pour ces ateliers. Et ce que je leur dis, c'est que, voilà, qu'ils aillent voir aussi ailleurs sur les... sur tous les contenus disponibles, si ça leur chante, avec grand plaisir. Moi, ce que je leur délivre, bah, il faudrait qu'ils se contentent de moi, en fait. et je ne prétends pas avoir la science infuse, juste je leur donne un peu de mon expérience et puis de ce que j'ai aussi eu dans mes aventures éditoriales. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être sur un partage et tout ce que je leur dis peut être discuté, débattu et c'est chouette parce que ça fait avancer, enfin on a fait des belles sessions jusqu'à là, on en a fait deux déjà et voilà, c'était des belles sessions mais je prends des nouveaux apprenants. Qui veut, voilà, tous les premiers samedis du mois. Et à l'Entre-deux-Mondes, puisqu'on on s'est dit que bah, c'était bien de faire des ateliers d'écriture, mais qu'en même temps, l'écriture, c'était quand même une activité très solitaire, et que malgré tout, bah, des fois, ce qui manque, surtout quand on est nouveau dans l'écriture, j'ai envie de dire, c'est un peu cette communauté et se dire qu'on n'est pas seul, en fait, à écrire. Moi, quand j'ai commencé à vouloir me faire publier, j'avais pas envie de faire de l'auto-édition. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de cet aval et de cette communauté d'auteurs que je connaissais pas et de me sentir portée par un nouveau monde, on va dire. Et du coup, on a décidé que tous les vendredis, la salle qui sert de salle de jeu à Lente, qui est au sous-sol, elle servira de résidence ponctuelle pour les auteurs. Donc du coup, tous les vendredis, de 10h à 19h, si vous avez envie, si vous êtes disponible, eh bien, vous pouvez venir travailler dans cette salle. Il y aura sans doute d'autres auteurs, il y aura sans doute moi, parce que j'essaie d'y être tant que possible sur ces créneaux-là. Et puis, les autres auteurs qui viennent, même si vous venez travailler 2h, 1h, toute la journée, c'est comme vous voulez. En tout cas, la salle, elle est prêtée par l'Entre-deux-Mondes pour les auteurs qui ont envie de travailler, mais de ne pas être seuls dans leur coin, en fait. C'est un peu ça. Et de pouvoir aussi échanger, parfois juste dire « Oh là là, je suis en train d'écrire ça, mais j'ai un blocage, je ne sais pas comment faire. » Ben voilà, on en parle 5 minutes, et puis des fois ça se débloque, des fois pas, mais c'est histoire de... Voilà, d'échanger aussi. Même entre gens qui écrivent déjà.
C'est une très belle initiative.
Ben, merci beaucoup. Voilà, c'était... C'est ma vie d'autrice dans ce moment, d'avoir lancé ces ateliers et cette résidence d'auteur hebdomadaire tous les vendredis à l'antre. Voilà, voilà. Et la dernière rubrique que nous allons avoir aujourd'hui... C'est une rubrique que j'ai envie de faire avec mes auteurs invités à chaque fois. Puisqu'on est auteur et qu'on écrit avec des mots, on est tout le temps en train de les chercher, ces mots. Et donc, je voudrais vous faire un petit jeu, Anne-Marie et Anne-Claude. Un jeu que j'ai déjà présenté d'ailleurs dans une autre émission qui est le Rendez-vous Culture des Bibliothèques, qui s'appelle Maudit Maudit. Ouais, je ne vais pas dire que j'ai inventé ce jeu, pas du tout. L'idée, c'est que je vous fasse deviner un mot. Donc vous ne savez pas lequel c'est, évidemment. Moi, je sais que je dois vous le faire deviner en un certain nombre d'indices. Donc peut-être c'est 2 indices, peut-être c'est 3 indices, peut-être c'est 1, peut-être c'est 5, je ne sais pas. Vous, moi, je le saurais, mais vous ne le savez pas. L'idée, c'est que moi, je trouve les bons mots pour vous faire deviner en X indices. Voilà. Peut-être vous devinerez plus vite que prévu, peut-être vous ne le devinerez jamais. Dans tous les cas, c'est à moi de trouver les bons mots pour vous faire trouver celui-ci. Donc je vais prendre complètement au hasard... J'ai le choix entre 2 mots. Ah bah tiens, c'est marrant. C'est vraiment du hasard. Vous m'avez vu piocher, hein ?
Oui.
Ok. Parce que les auditeurs, ils ne vont pas en croire leurs oreilles. Si je vous dis auteur.
Alors, on attend quand même que tu nous dises tous les mots ou on peut quand même faire des propositions ?
Non, c'est un indice, une proposition.
Écrivain.
Roman.
Écrivain, bravo.
Oh bon.
Bah, ça aurait pu, mais comme tu sais pas en combien d'indices je dois te le faire deviner, c'était en 1, c'est celui où il y a la petite souris à côté, et du coup voilà, la petite souris disait en 1, donc c'était en 1 et voilà, c'était écrivain. C'est fou de tomber sur ça quand même la première fois.
C'est marrant, c'est beau.
Allez, je vous en fais un deuxième. ça sera pas toujours des mots comme ça. Hein. Alors là, pareil, il y a toujours le choix entre deux mots. Pas facile. Mon premier indice, ça sera route.
On aurait envie de dire voiture, mais si c'est pas facile, ça va pas être si facile que ça.
Chemin.
Oh non, mais là, Anne-Marie,
Elle a un sixième sens.
J'avais trois mots.
Je pense, le vois, ouais. Je connaissais même pas son existence.
Bravo, Anne-Marie. Mais du coup, voilà. Oui, c'était chemin, mais j'avais encore deux autres indices à vous donner. Donc,
je crois qu'Anne-Marie va repartir avec la boîte de chocolat. Je suis frustrée.
La clé, oulala, ça m'intéresse.
Allez, un dernier, au cas où. Anne-Claude, du coup, faut tout donner.
Ouais.
Hop, je vais changer hop, ça. Donc j'ai toujours deux choix. Je vais prendre ce choix-là. Si je dis tristesse.
Alors voilà, est-ce qu'on reste dans la synonymie comme depuis le début, hein, chemin, route, écrivain, auteur. Donc si tristesse, théoriquement mélancolie. Ou alors on est dans le contraire et dans ce cas-là on dit joie, mais là je viens de donner deux réponses parce que je sais qu'il faut absolument que je gagne.
Ouais, je donc voilà,
donc merci Anne-Marie. Mais j'ai peut-être pas trouvé quand même.
Là en un vous pourrez pas trouver normalement.
Tristesse, peine.
Ok, donc vous gardez ces mots que vous avez en tête. Je vous donne un deuxième indice qui sera larmes. Pas trop où je vais là.
Larmes.
Ouais, tristesse et larmes. Alors ce serait pleurer pleure, peut-être.
Pleure.
Est-ce okay. qu'on cherche, on ne sait même pas si on cherche un verbe ou c'est ça qui est compliqué. Hein.
C'est vrai, vous ne savez pas. Bon, et troisième indice, rhume.
Ah, peut-être mouchoir alors.
Oui.
Oh, bah alors voilà, je ne suis pas Fanny.
Heureusement, j'allais dire rhinopharyngite.
Tristesse et rhume, rhinopharyngite.
Oui, bravo à toi, mouchoir, parce que c'était pas évident.
En trois. Voilà. Non, ben non, mais du coup, en fait, c'est tout le principe, c'est normalement ça, c'est de partir d'un mot pas tout à fait proche, parce que tristesse et mouchoir, il y a quand même un gap.
Mais tu l'as bien construit, mais tu es notre, comment elle s'appelait, Marie-Ange, tu es notre Marie-Ange Nardi de Pyramide.
De Pyramide. Vous avez été de bons participants. Eh bien, merci en tout cas Anne-Claude et Anne-Marie pour votre joie, votre bonne humeur aujourd'hui. Merci d'avoir partagé avec nous aussi vos ouvrages. Je rappelle ce que vous avez partagé. Donc, Une garde-robe impériale ou Mes vestes sur les sites de rencontre de Anne-Marie Caria et Une dernière fois encore de Anne-Claude Brumont. Entre autres. Et on vous retrouve bien sûr toutes les deux au Salon du Livre de Venêtre au mois d'octobre. J'espère que nos auditeurs viendront aussi nombreux. On a encore un peu le temps, ça va.
Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de La Voix de la Plume.
Merci pour votre écoute de La Voix de la Plume. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à me le faire savoir via Instagram. Vous pouvez me retrouver sur le compte @AYGBleu pour plus de contenu autour de ma vie d'autrice et de créatrice. Je vous dis à très bientôt.